La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Il y a 250 ans naissait Ludwig van Beethoven et on va donc le suivre pendant 12 lundis, en fait quoi, pendant longtemps. Hein. Cécile, bonjour Cécile Post.
Bonjour Laurent.
C'est vous qui avez réalisé cette série avec Marion Guillemette. Donc, comme vous aimez le faire et comme on adore l'entendre, on va se replacer dans le siècle de Beethoven.
On va se replacer dans son époque, on va parler d'hygiène, on va parler de médecine, on va parler de politique, de philosophie, enfin voilà, on ne peut pas isoler les artistes de leur époque et puis l'œuvre de Beethoven est particulièrement liée à toute cette époque révolutionnaire, c'est le cas de le dire.
Alors quoi, la famille van Beethoven, originaire de Malines ?
Eh oui, originaire de Malines, en fait, son arrière-grand-père a décidé de devenir très riche et a fait des malversations financières, il a fait un trafic de tableaux de maître, enfin bref, la justice lui est tombée dessus et pour pas aller en prison, ils ont décidé de fuir et de rejoindre l'un de leurs fils qui s'était établi à Bonn, donc c'est en 1740 qu'ils arrivent effectivement à Bonn, donc 30 ans avant la naissance du compositeur. Alors, on dit qu'il est né le 17 décembre 1770, c'est en tout cas ce qui est inscrit dans le registre de baptême, mais il est probablement né la veille dans une famille où seuls 3 enfants vont survivre sur les 7. Et puis, vous le savez, son père Johann, enfin vous le savez, c'est un peu de notoriété publique, son père Johann buvait beaucoup et on dit que dans cet état, il avait tendance à aller réveiller son fils en plein milieu de la nuit et à lui donner des leçons de piano plutôt musclées.
Retour donc à l'enfance de Ludwig van Beethoven.
La première présente Ludwig van Beethoven.
C'est des actes d'audace qu'il a eu dans ses compositions.
Cette souffrance n'est pas inutile.
Le vin, c'est la plus hygiénique des boissons.
Il y a des passages qui sont vraiment faits pour rire.
Des partitions totalement illisibles.
L'approfondissement infini de l'espace intérieur.
On entre presque dans le crâne d'un sourd.
Il y a eu un énorme orage.
Nous sommes le 27 mars 1827. Le docteur Johann Wagner se rend au Schwarzspanierhaus à Vienne. Le docteur Andreas Wabruch est déjà sur les lieux. Ils vont effectuer une autopsie sur le corps de Ludwig van Beethoven.
Mais l'autopsie de Beethoven était prévue de longue date.
Le médecin Jean-Louis Michaud.
Car dans le document qui est appelé le testament de Heiligenstadt, il dit très clairement que le professeur Schmidt, qui était son médecin, veille à faire savoir au monde quels étaient tous les problèmes de santé qu'il avait dû endurer. Donc, il y avait là déjà un élément qui montrait qu'il souhaitait qu'un examen post-mortem soit réalisé. Et le médecin qui a pris en charge ces derniers mois, le docteur Warou, avait également le souhait que cette autopsie soit réalisée. Et il a été réalisé dès le lendemain dans son bureau. Donc le mardi 27 mars 1827. Elle a été réalisée par le docteur Wagner qui en a écrit un protocole.
Le corps du mort était très amaigri, spécialement aux extrémités. Son abdomen était gonflé et tendu par une extrême hydropysie. Le cartilage de l'oreille est apparu grand et formé de manière irrégulière. La fosse scaphoïde était très vaste et d'une moitié plus profonde que d'habitude. Le conduit auditif externe est apparu occupé d'écailles de peau brillantes. La trompe d'Eustache était très épaisse. Les nerfs auditifs étaient plissés et sans moelle. La cavité de l'abdomen était remplie de 4 mesures d'un liquide grisâtrement trouble. Le foie, réduit à la moitié de son volume, apparaissait semblable à du cuir. Tous ses vaisseaux étaient épais et dépourvus de sang. Dissection privée, le 27 mars 1827, docteur Johann Wagner, assistant au musée de pathologie.
Ce protocole, figurez-vous, a été perdu pendant de très très nombreuses années et a été retrouvé à Vienne vers les années 1980. C'est un protocole écrit en latin, écrit à la main bien sûr, et qui détaille tout ce qui a été examiné. Les grosses lésions qui ont été retenues sont de deux types. C'est le foie. Le foie était tout à fait atrophié, était dur, était nodulaire, était atteint de façon prépondérante. Et deuxième élément particulier, c'était des lésions au niveau des reins, qui s'appellent la nécrose papillaire. C'était la première fois en médecine que l'on décrivait ce type de lésion. Je ne vous parle pas de ces problèmes auditifs, parce que le docteur Wagner a fait un prélèvement de tous les massifs mastoïdiens, parce qu'il avait l'intention de faire un examen plus approfondi dans son laboratoire. Et figurez-vous que ces pièces anatomiques ont disparu. On ne sait absolument pas ce qu'elles sont devenues. Il y a des hypothèses diverses, que cette pièce aurait été vendue, enfin peu importe. De toute façon, on n'aura jamais l'explication réelle de l'origine de ces atteintes auditives, qui ont été quand même un des éléments majeurs de son problème de santé, puisque les premières manifestations remontent aux environs de l'âge de 26-27 ans. Et dans les 10 dernières années de sa vie, il était complètement sourd. Et d'ailleurs, cette surdité ne permettait pas de pouvoir s'entretenir avec lui autrement que par écrit. Et quand on se rendait chez Beethoven, on recevait un carnet qu'on appelait les carnets de conversation, dans lequel les personnes inscrivaient des éléments d'une question ou d'un fait. Et ces cahiers de conversation sont encore à l'heure actuelle, en grande partie, à la Bibliothèque de Berlin, et sont une source naturellement importante, historique, des événements de l'époque.
Qui est Ludwig van Beethoven ? On l'a dit, révolutionnaire. On l'a dit, travailleur acharné. On l'a dit, colérique. On l'a dit, sans cesse amoureux. Et qu'en est-il de sa musique ?
Beethoven est le premier, vraiment, j'en suis certain, à avoir mis l'homme au centre.
Le pianiste François-Frédéric Guy.
Et l'idéal humain, c'est-à-dire l'homme au sens de la transcendance, l'homme au sens de l'humanité, transcender les différences, transcender les cultures, et puis faire qu'effectivement le genre humain, cette fameuse Bruderei, c'est-à-dire la fraternité qui caractérise l'œuvre de Beethoven, il l'a mise au centre. Avant, il y a eu des génies avant Beethoven, évidemment. Je parle purement musicalement. On peut citer bien sûr Jean-Sébastien Bach, Mozart, Handel, Haydn. Mais c'est le premier, je dirais, Beethoven, à mettre l'homme au centre et non pas à glorifier un dieu qu'on espère immense, solaire, à l'image de ce qu'a fait Bach ou Handel. Même Mozart, dans un certain sens, qui avait ce lien divin. Il écrivait les manuscrits de ses œuvres sans aucune rature. Il avait ce côté, on disait, mais ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre d'un dieu. Alors que Beethoven, c'est tout le contraire. Il replace l'homme au centre. C'est un travailleur laborieux qui met beaucoup de temps pour réussir à trouver son thème, à lui donner sa forme. Il barbouille inlassablement ses carnets qu'il a toujours sur lui lors de ses nombreuses promenades pour arriver finalement à l'épreuve finale. Donc c'est l'homme, c'est le labeur, c'est en même temps la glorification de l'homme, tous les sentiments humains qui sont exprimés. Ça, je tiens vraiment à le dire parce que c'est le premier qui ose. Avant, on parle de la divinité, on parle de Dieu, on parle des grandes choses, mais Beethoven, lui, il parle de l'homme. Il parle aussi de ses turpitudes, ses vicissitudes, ses désespoirs, ses petitesses, tout autant que sa mystique, sa grandeur, ses aspirations au divin et à surpasser sa condition pour arriver à un idéal humain. Et ça, c'est vraiment la définition de l'œuvre de Beethoven. Et arriver à exprimer ça avec des symboles, des notes de musique sur un papier, moi, je trouve ça exceptionnel, probablement unique.
Les ancêtres de Ludwig van Beethoven vivent en terre brabançonne. Ils cultivent les terres des coteaux de Lavour. Le nom Beethoven vient d'ailleurs du flamand. Le mot Beet signifie betterave et Oven signifie champ ou jardin. Au XVIIe siècle, Cornelius van Beethoven, qui est né en 1641, quitte le village et il décide de poser ses valises à Malines. Son activité professionnelle ? Menuisier. C'est un métier que son fils Michiel poursuit tout en devenant boulanger. Michiel devient riche et il décide, outre la boulangerie, de se lancer dans la vente d'antiquités et dans l'exportation de dentelles de Malines. Malheureusement, Michiel van Beethoven s'endette. Il est harcelé par les créanciers. Il est poursuivi par la justice qui l'accuse d'escroquerie de tableaux de maîtres hollandais et de malversations financières. Le jugement tombe. Michiel est reconnu coupable. Pour ne pas être jeté en prison, Michiel et sa femme quittent Malines. C'est donc un couple ruiné qui vient s'installer à Bonn en 1740. Ils sont venus rejoindre leur fils, Lodewijk, lui van Beethoven, lui l'ancien, le grand-père de Ludwig. Lodewijk a également reçu une formation d'organiste. Il est entré à la Schola Cantorum de la cathédrale Saint-Rombo à l'âge de 6 ans. En 1732, lui l'ancien est engagé comme soliste et comme chef de chœur à l'église Saint-Pierre de Louvain. Alors que Lodewijk se produit à Liège, il est repéré par Clemens Auguste, le grand électeur et archevêque de Cologne. Il propose alors une place de musicien à lui l'ancien, une place à la cour épiscopale de Bonn. Lui l'ancien, le grand-père du compositeur, prend le bateau en mars 1733 et il s'établit à Bonn.
Il y a eu un portrait qui a été fait par le peintre de la cour.
La musicologue Elisabeth Brisson.
Il s'appelait Radou, hein, ce peintre de la cour électorale, qui a fait un portrait du grand-père. C'est quand même pas n'importe quelle personne que l'on portraiture, avec donc les insignes du fait qu'il était bien arrivé à un statut important, avec un vêtement avec de la fourrure, et puis une partition, on pense que c'est la Serva Padrona. Donc il y avait quand même besoin de montrer qu'il avait cette profession de musicien, alors que son petit-fils, Beethoven, on pourra le représenter sans aucun indice de sa fonction. Hein. Malgré tout, c'était un personnage important. Beethoven va l'avoir connu un tout petit peu, parce qu'il meurt en 1773. Mais ça reste une figure pour lui et il voudra, il le dit pas, mais on voit bien dans ses actions, il voudra être comme son grand-père, devenir maître de chapelle. Mais lui, il va pas réussir, Beethoven, maître de chapelle.
Son grand-père était maître de chapelle à Bonn et toute sa vie...
Le musicologue Bernard Fournier.
Beethoven caressera le souhait, le rêve de devenir lui-même maître de chapelle et il n'y arrivera jamais. Il essaiera plusieurs fois, ça lui passera toujours à côté. Et donc c'est quand même assez étonnant, il a fait bien mieux que ça, mais il aura toujours cette espèce de rêve insensé parce qu'il voulait s'identifier à son grand-père qui pendant toute une partie de son enfance a constitué le grand individu. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir comment le mélange de cet univers familial où la situation est sinistre, dramatique, une solitude qui finalement se révélera extrêmement féconde parce que c'est la solitude de l'enfant qui réfléchit, qui est obligé de réfléchir et de se prendre en charge. Mais la rencontre entre ce monde, cette réalité difficile, et puis le souvenir de son grand-père qui est mort quand il avait 3 ans, mais dont il n'a jamais oublié l'image, et il avait encore le portrait de lui dans la chambre où il est mort à Vienne, 54 ans plus tard, puisqu'il est son grand-père est mort quand il avait 3 ans. Donc. Et ce grand-père va l'aider à forger cette espèce de mythe de la grandeur et du grand individu qui ne cessera de le porter et de le pousser.
L'ancien et son épouse, Maria Josepha Paul, donnent naissance à 3 enfants. Les 2 aînés, Maria et Marcus, décèdent quelques mois après leur naissance. Seul Johann, qui est né en 1740, va survivre. Les parents de Ludwig se marient le 12 novembre 1767. Johann van Beethoven prend pour épouse Maria Magdalena Kefrich. Lui, l'ancien, désapprouve cette union. Maria Magdalena est la fille du cuisinier en chef du palais d'Ehrenbreitstein. Elle avait épousé en première noces le valet de chambre de l'électeur de Trèves. Le valet était décédé en 1765. Johann et Maria donnent naissance à 7 enfants, mais seuls 3 d'entre eux arriveront à l'âge adulte. Caspar Anton Karl, Nicolas Johann et Ludwig. Ludwig qui est le deuxième de la fratrie. Il voit le jour au 515 de la Bonne Gasse. Il est inscrit au registre de baptême le 17 décembre 1770, mais il est probablement né la veille.
Si on prend en compte la question de l'intérêt porté à la naissance et aux précautions qui sont proposées.
Le spécialiste de l'hygiène et des pratiques corporelles, Georges Vigarello.
La première exigence renvoie justement à une préoccupation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle de la propreté du corps. Et l'insistance est mise sur au moins deux ou trois questions. La première, c'est la propreté de la personne qui exerce en quelque sorte les actes permettant à la naissance de s'effectuer, se laver les mains. Parce que vous avez encore, vous savez, vous avez des matrones qui ne se lavent absolument pas les mains au milieu du 18e. Donc ça entraîne des fièvres puerpérales, etc. C'est des conséquences dont on n'arrive même pas à percevoir la cause. Donc, propreté, ça c'est un premier point. Deuxième point, des gestes qui sont plus doux, attentifs, qui prennent en compte la souffrance et la douleur de la femme. Et troisième point, propreté absolument importante concernant l'enfant. Ne pas le laisser trop longtemps dans ses langes, le changer, être attentif à ses cris, etc. C'est très curieux parce que on voit que dans cette façon de faire baisser la mortalité enfantine, et elle a baissé de façon objective. Je fais une parenthèse. Elle a baissé de façon objective, on peut parfaitement la prendre en compte lorsque l'on lit les archives paroissiales, où l'on voit les naissances, les durées de vie, etc. Vous voyez, les morts, on voit très bien que la mortalité infantile baisse indiscutablement des années 70 jusqu'au début du 19e. Je reviens à ce que je voulais dire. Ce qui est curieux et dans une certaine mesure passionnant concernant ces questions, c'est que le XVIIIe siècle ne manifeste pas de grandes découvertes médicales. Il ne manifeste pas une découverte comme Pasteur a pu le faire dans les années 70, vous voyez. Mais en revanche, il déplace complètement les pratiques avec des préoccupations qui sont plus exigeantes, qui sont plus précises et qui sont aussi plus diffusées et plus explicites. Alors c'est pas du tout l'hygiène d'aujourd'hui, vous voyez. Ce n'est évidemment pas une hygiène qui passe par exemple par la connaissance des microbes, comme Pasteur a pu le montrer dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ce n'est pas une hygiène non plus qui sophistique les repères de la chimie. Mais c'est une hygiène, alors le mot de nature est intéressant, c'est une hygiène qui part du principe qu'il faut donner plus d'air aux personnes, ouvrir les fenêtres, avoir une vie où la nourriture soit plus saine, soit plus proche des exigences naturelles. Il y a la nourriture, il y a aussi le fait de donner davantage de mouvement aux gens, en particulier aux enfants. Les enfants trop coincés dans leur corset ne peuvent pas véritablement s'épanouir. Il y a une attention aussi au fait que donner du mouvement aux enfants, s'intéresser à eux, les considérer comme des êtres qui ont de l'importance, ça les amène à grandir davantage, à s'affirmer davantage. Vous voyez, c'est plutôt sur des problèmes de ce genre que s'installe une nouvelle, de ce que j'appellerais moi une nouvelle hygiène. Et c'est vrai, il y a de très beaux livres qui ont été montrés sur ce point, que l'hygiène des Lumières est quand même un grand mouvement neuf, qui passe, je le répète, par l'attention aux naissances. Par exemple, en France, pour prendre cet exemple-là, très simplement, Louis XV, dans les années 60 du XVIIIe siècle, finance le fait que deux ou trois personnes traversent la France pour apprendre aux chirurgiens à favoriser l'acte de la naissance. Ce qui favorise, évidemment, le fait que des accidents seraient moins nombreux. Voilà un exemple, mais il y en a mille autres. Je pense à ce livre très beau de Tissot qui s'appelle « Appel au peuple pour sa santé ». Tissot essaie de recenser les maladies qui sont les plus graves au moment de la deuxième moitié. Il s'est écrit en 1762. Au moment de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, maladies les plus graves, l'aphtisie, et évidemment les questions de l'alcool. On ne donne pas encore le mot alcoolisme. Et Beethoven est concerné d'ailleurs par cette question-là. On ne dit pas encore l'alcoolisme, mais l'excès de consommation d'alcool. Il y a aussi une nourriture que l'on veut plus saine et abondante. Et donc, quels sont les conseils que l'on peut donner au peuple pour qu'il puisse avoir plus de force qu'il en avait auparavant? Et on revient à cette idée d'une force populaire, vous voyez.
Gazette de santé contenant les nouvelles découvertes sur les moyens de se bien porter et de guérir quand on est malade.
En France, effectivement, la Gazette de santé apparaît, autant que je me souvienne, à une année près, en 1770. Mais ce n'est pas la seule manifestation d'un changement de repère à l'égard de l'hygiène. Se crée aussi la Société royale de médecine, qui est un instance supplémentaire par rapport à celle de l'Académie. Et c'est vrai que dans cette deuxième moitié du 18e, il y a, j'irai avec les Lumières au sens large du terme, il y a un renouvellement d'intérêt et de centration non seulement sur les questions de médecine, mais en même temps sur les questions de ce que j'appellerais la prévention, l'hygiène. Parce que la société commence à entrer dans des modes de préoccupation qui portent sur la quantité de population, l'efficacité de cette population, la mortalité, en particulier la mortalité infantile. Il y a un grand investissement sur le fait d'éviter des morts qui peuvent être trop tragiques parce qu'elles abaissent la population, avec tout un concept nouveau qui est celui de dégénération et l'idée selon laquelle les sociétés trop techniques, les sociétés trop urbanisées entraînent le fait qu'après tout, on s'éloigne de la nature, les corps dégénèrent. C'est un imaginaire très large qui porte pas seulement sur la pratique médicale, mais qui porte bien, à la limite, sur à la fois la vision du corps, la vision des populations, ce que j'appellerais plus largement la vision du bien-être. Je pense que c'est l'installation de quelque chose qui commence à ressembler à la société.